Bonsoir et bon début de semaine à tous. Clôture ce lundi aux premières heures du matin à Addis Abeba du 37e sommet des chefs d'État de l'Union africaine. En marge de ces assises, un mini-sommet convoqué par le président angolais João Lourenço a été organisé sur la crise dans l'est de la RDC. Le président angolais, médiateur désigné pour renouer le dialogue entre la RDC et le Rwanda, a indiqué que cette initiative est prise afin de relancer le processus de paix qui a connu un recul avec l'intensification des combats et les conséquences humanitaires et économiques désastreuses pour la population congolaise. Le chef de l'État angolais a proposé à Addis Abeba un dialogue direct entre ses homologues du Rwanda et de la RDC pour mettre fin au conflit entre ces deux pays voisins. Par ailleurs, il s'est dit inquiet de la crise sécuritaire dans la partie est de la RDC qui, dit-il, risque d'atteindre des proportions dangereuses qui peuvent finir par affecter non seulement la RDC et le Rwanda, mais aussi une vaste région qui englobe non seulement la région des Grands Lacs, mais aussi la SADC, puisque la RDC fait également partie de ce bloc régional. Après avoir rencontré séparément les présidents congolais et rwandais, le président angolais a promis de poursuivre sa médiation auprès de chacun des protagonistes à Luanda. Cela dans le même format bilatéral, séparé, afin de convenir d'une issue favorable à cette question. Que pensez-vous de la proposition du médiateur João Lourenço pour régler la crise dans l'est de la RDC? Participe au débat de ce soir Moïla Chiembe, professeur et directeur de l'Institut panafricain des géopolitiques de Nancy en France. Professeur Moïla Chiembe, bonsoir.
Bonsoir, madame Thierry.
Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique et politologue. Professeur Bob Kabamba, bonsoir.
Bonsoir madame et bonsoir à mes co-débatteurs et ainsi que mon collègue Thierry.
Henri Pacifique Mayala, coordonnateur du baromètre sécuritaire du Kivu. Henri Pacifique Mayala, bonsoir.
Bonsoir madame Kelly, bonsoir à tous les auditeurs de la radio.
À Matadi au Congo central, vous nous suivez sur la 102.0. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net, sur Canal Plus, Channel 572, sur DSTV Canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en live sur le compte Twitter, la page Facebook et la chaîne YouTube de Radio Capi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiocapi.net.
Je l'ai dit dans le sommaire, le 37e sommet ordinaire des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine s'est clôturé ce lundi aux petites heures du matin sous le thème « Éduquer un Africain adapté au 21e siècle ». C'était ça le thème de ce sommet. Et cependant, ce sommet a été une occasion pour l'Angola d'organiser un mini-sommet consacré à la situation sécuritaire dans l'est de la RDC afin de tenter d'obtenir un cessez-le-feu. Le président angolais va poursuivre ses échanges avec ses homologues congolais et rwandais à Luanda. Reportage grâce à Mzati.
Le sommet extraordinaire sur la situation en République démocratique du Congo a démarré vendredi soir à Addis Abeba avec pour objectif la relance du processus de paix dans l'est du pays. Le mini-sommet des chefs d'État sur la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC s'est poursuivi samedi 17 février à Addis Abeba dans un format bilatéral séparé. Le médiateur et organisateur de cette rencontre, le président angolais João Lourenço, a rencontré tour à tour les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Après les avoir rencontrés séparément, le président angolais a promis de poursuivre sa médiation auprès de chacun des protagonistes à Luanda. Cela dans le même format bilatéral séparé, afin de convenir d'une issue favorable à cette question. La réunion, convoquée par le chef de l'État angolais João Lourenço, s'est tenue en marge du 37e sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Cette réunion avait pour but de voir des mesures que les parties prenantes devraient prendre pour renégocier un cessez-le-feu entre les autorités de la RDC et le M23 et tenter de conduire, si possible, à un dialogue direct entre les chefs d'État du Rwanda et de la RDC. Mais déjà, lors de cette réunion, devant le médiateur João Lourenço, William Ruto, président du Kenya, Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud et Paul Kagame du Rwanda, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est exprimé en ces termes, je cite, « On ne va jamais négocier avec le M23. Je veux la paix, mais pas à n'importe quel prix. On ne peut pas prétendre devenir protecteur d'une communauté d'un pays voisin. Cette guerre n'est pas une invention de la RDC. C'est une guerre pour continuer le pillage de mon pays et faire le bonheur du Rwanda et de ses complices. Fin de citation. Le Rwanda, de son côté, s'est dit préoccupé par l'abandon des processus de Luanda et de Nairobi par le gouvernement de la RDC, ainsi que par l'indifférence de la communauté internationale devant le renforcement militaire considérable de la RDC. Kigali soutient fermement une résolution politique de la question du M23 par les Congolais eux-mêmes.
Merci et grâce à nous pour ce reportage, professeur Maïla Tinimbi. Je rappelle que vous êtes professeur et directeur de l'Institut panafricain des géopolitiques de Nancy. En France, il y a eu ce mini-sommet des chefs d'État africains à Addis Abeba. La question de la RDC était aussi au centre de cette rencontre initiée par le président angolais, João Lourenço. On a l'impression que chaque président RDC rwandais, chacun campe sur sa position. Le président Tshisekedi ne veut pas entendre parler de dialogue avec le M23. Le Rwandais Paul Kagame rejette la balle aux Congolais. Pour lui, cette question du M23 doit se régler entre les Congolais eux-mêmes. Le président Lourenço propose lui, le dialogue entre la RDC et le Rwanda. On se retrouve là dans une sorte d'impasse. Pensez-vous que cette démarche que mène le président Lourenço de l'Angola pourrait aboutir à quelque chose de concret, de positif?
Mais, Madame Kelly, il est possible que les choses changent, même si le changement est lent. Pourquoi? Parce que dans un rapport de force, la négociation que tout le monde appelle de ses voeux exige que l'on regarde le terrain. Est-ce que le terrain est le même qu'il y a quelques mois, voire quelques 2 ou 3 ans? Non, il y a un changement. L'un des changements est que le président de la République démocratique du Congo vient d'être élu de la manière un peu surprenante, avec une majorité écrasante dans toutes les provinces du pays. À ces jours, indépendamment des velléités de ses opposants qui relèvent ça et là, que les élections n'ont pas bien eu lieu, qu'il y a eu bourrage d'urnes, que certains bureaux n'ont pas ouvert, aujourd'hui, il est permis de penser que ce chapitre est fermé. Alors, étant donné que le président de la République démocratique du Congo est réélu, et qu'il a rappelé plus d'une fois qu'il n'entend pas négocier avec le M23. Pourquoi? Il a été renforcé dans sa conviction par le rapport des Nations Unies attestant que derrière le M23, c'est l'armée rwandaise qui mène les opérations. Alors, à partir de là, qu'est-ce qui restait comme perspective? Négocier avec celui qui est à la base du conflit, c'est-à-dire le président Kagame. Après avoir, comment dirais-je, snobé les uns et les autres, en considérant circuler, il n'y a rien à voir, aujourd'hui, le changement de point de vue de la part, notamment, des États-Unis, est significatif, dans le sens que lui-même, le président Kagame, étonné, demande aux États-Unis de lui expliquer quel est l'état d'âme ou d'esprit de ce pays au regard du conflit en République démocratique du Congo. Donc il y a là un changement substantiel. Tout le monde a compris que le cœur de ces conflits vient de Kigali. Et que si Kigali pouvait mettre un peu d'eau dans son vin, il y a lieu éventuellement de revenir à la discussion, à la négociation. Et en plus, sur place, l'arrivée des forces de la SADC qui ont rejoint les forces du Burundi qui étaient déjà là dans la configuration précédente avec les pays, les forces de l'Afrique de l'Est, et le renforcement sur place en termes d'équipement, en termes de mobilisation des FARDC et l'apport des Congolais qui se battent à leur corps défendant comme milicien, et tout ceci est venu donner un plus à la détermination des Congolais de se battre d'abord eux-mêmes, compter sur ses propres forces, compter ensuite sur la force des alliés. Alors, dans la mesure où cette force, aujourd'hui, permet effectivement de démontrer ce qui était plus ou moins caché, que derrière le M23, les armements utilisés aujourd'hui, notamment les missiles, apportent la preuve supplémentaire que Kigali est derrière. Alors, à partir de là, l'Union africaine, le sommet auquel vous venez de faire allusion, a permis en aparté ces concertations entre l'Afrique du Sud, le Burundi et la République démocratique du Congo. On n'a pas encore le compte rendu exact de ce qui s'est dit, mais ça présage quelque chose qui montre que dans la mesure où le Burundi est en froid avec Kigali et que Kigali est en froid avec la RDC, et si l'Afrique du Sud est partie prenante avec les forces de la SADC, il y a lieu de penser à une certaine recomposition du champ qui probablement n'a pas encore une signification totale aujourd'hui, mais qui laisse penser que les choses sont en train de changer. Alors, pour toutes ces raisons, on peut penser qu'il n'est plus possible de rester sur le schéma ancien si le président Kagame accepte de négocier avec le président Tshisekedi. Il est plausible que l'un et l'autre, mettant le vin, l'eau dans son vin, parce que chaque pays défend ses intérêts, ce qui est tout à fait légitime, et vous vous souvenez, madame, que le président Kagame a toujours mis dans l'équation l'affaire d'Efbeler. Dois-je rappeler que l'Efbeler, c'est un résidu de génocidaire rwandais qui avait été poursuivi jusque dans le camp des réfugiés en République démocratique du Congo, notamment à Goma, pour chasser, avec la prise du pouvoir de Laurent Désiré Kabila, ses alliés ougandais et rwandais, des milliers de ces gens ont été massacrés. Il y a une poignée d'individus qui restent encore dans le Kivu actuel. Alors, ces personnes, hommes, femmes et enfants, ont le statut de réfugiés. Ils ne peuvent rentrer dans leur propre pays que si leur gouvernement, le président Kagame, crée les conditions qui les dissuadent à rentrer. La République démocratique du Congo ne peut pas les chasser parce qu'ils sont sous le contrôle des Nations Unies et du HCR. Donc, ça présage, le cas échéant, il ne faut pas négliger cette équation, même si c'est superflu, ils ne seront pas nombreux. Le président Kagame joue cette partition en disant, mais vous voyez, le Congo protège les génocidaires, etc. Puisque ces génocidaires, madame, sont des Rwandais, il est porté à croire qu'il faudra les remettre aux Nations Unies qui leur a donné la reconnaissance qui leur permet de vivre aujourd'hui comme réfugiés. Ceux qui veulent rentrer dans leur pays peuvent rentrer au regard du droit international. Ceux qui refuseraient de rentrer, soit ils demandent la nationalité de la République démocratique du Congo s'ils en remplissent les conditions, ou s'ils ne les remplissent pas, ils peuvent prétendre soit à la nationalité de notre pays, l'Union africaine, les Nations Unies peuvent l'organiser.
Merci.
Alors, quel sera l'ordre de destin de ceux que Kagame a armé, ces Congolais qui se battent contre leur propre pays, contre leur propre armée, sous le commandement ou sous la direction du président Kagame? Ce sera l'équation de l'ancien projet, de leur désarmement, leur internement, etc., etc. Et même là aussi, il faudra, au-delà de la passion, en dehors de tous ceux qui ont le crime de sang, d'ailleurs ça a déjà été fait à l'époque du président Kabila, lorsqu'il y a 10 ans, les mêmes ont été battus, les armes à la main, de FARDC et des Nations Unies. Malheureusement, les conditions qui avaient prévalu à leur guerre n'ont pas été réglées. On les a battus, les armes à la main, 10 ans après, les revoici. Alors, le moment est peut-être venu de voir concrètement quelles sont les raisons fondamentales qui font que ce genre, d'année en année, traîne les armes. Et s'il demande ce qui est possible, le gouvernement de la République peut consentir à répondre à leur demande. Mais merci. S'il demande l'impossible, à l'impossible, il n'est plus.
Professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique et politologue, le président angolais propose un dialogue direct entre le président congolais Félix Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame. Mais cependant, le M23 dit que le Rwanda n'est pas son porte-parole pour qu'on puisse demander un dialogue entre le président congolais et le président Paul Kagame. Le dialogue devrait se faire plutôt entre le gouvernement congolais et le M23.
D'abord l'invitation, et j'ai oublié mon co-débatteur qui participe avec nous, et ainsi que les auditeurs de Radio Capi. En fait, la question, elle est véritablement complexe. Il y a quelque temps, sur cette même radio, cette même émission, on avait évoqué effectivement cette question. Et alors ma réponse à l'époque avait été que cela paraissait difficile, voire impossible, que l'on puisse envisager quelconque dialogue dans le contexte actuel. Effectivement, les choses ont véritablement changé depuis quand même un petit temps. Les évolutions, dans plusieurs sens, ont été observées ces derniers temps, et d'où aussi ces évolutions qui amènent à pouvoir avoir une dynamique au niveau régional et au niveau continental et au niveau international. Cette évolution, il y a d'une part au niveau du terrain, c'est qu'on remarque que depuis quand même un petit temps, donc on n'a pas eu d'effet sur le terrain de la part de la RDC, surtout des FRDC, à pouvoir contenir l'avancée de non seulement le M23, auquel il faut aussi ajouter que le M23 est maintenant fait partie de ce qu'on appelle maintenant l'alliance Fleuve Congo, avec comme coordonnateur l'ancien président de la CENI, Corneille Nanga. À cette coalition, on a aussi mentionné l'arrivée de plusieurs autres groupes qui sont de la province orientale, ainsi que de d'autres provinces, ainsi que de forces sociales, si on croit ce que les différents communiqués qui ont été diffusés par les uns et les autres à ce sujet. Sur le terrain, donc, il y a effectivement une évolution, mais qui va en défaveur de la FRDC. Alors, cette situation pousse effectivement la communauté internationale à vouloir arriver à ce qu'il y ait un cessez-le-feu. Alors, contrairement à ce que vous dites, j'ai essayé de relire un peu les différents communiqués qui sont sortis dans la presse suite à la réunion qui a eu lieu à Addis Abeba. Il ressort non pas que l'on prône uniquement le dialogue entre le Rwanda et les FRDC au sujet donc de ce qui se passe dans l'est du Congo, mais on prône aussi sans ambiguïté par rapport à des discussions qui doivent avoir lieu au niveau congolais avec l'implication de tous les autres groupes, ce qui veut dire qu'on revient à ce qu'on a appelé le processus de Nairobi, qui concerne essentiellement donc les groupes locaux, donc les groupes armés locaux, que ce soit Mai Mai, que ce soit dans la province orientale, que ce soit au sud Kivu et que ce soit aussi en province donc du Tanganyika. Et donc clairement, cet engagement et cette tentative de discussion, pour ma part, est vouée à l'échec, et ne va pas apporter des solutions par rapport à ce qui est en train de se passer sur le terrain. Et au fur et à mesure que l'évolution va aller en défaveur de la RDC, il y a à craindre que, malheureusement, les positions des uns et des autres deviennent des positions radicales, et ces positions radicales qui seront difficilement conciliables dans un processus quelconque. Les revendications ont changé, on n'a plus les mêmes revendications, et il y a d'autres revendications maintenant qui apparaissent sur la table et qui compliquent encore plus les discussions.
Alors, vous parlez des revendications du M23?
Les revendications du M23, de l'Alliance, parce que on ne sait plus véritablement comment est-ce qu'on va commencer à qualifier. Est-ce que c'est le M23, c'est l'Alliance, Fleuve Congo, et tout ça, on va voir un peu les évolutions qu'il y a. Oui, les revendications ont changé, ce n'est plus les revendications que l'on avait lorsqu'on a commencé à parler du processus de Nairobi. Là, maintenant, on a un autre discours qui vise de manière claire, et il y a beaucoup de communiqués de presse, au changement des régimes en RDC, justifié par toute une série d'éléments qu'ils essayent de mettre en évidence. Alors dans ce contexte-là, je vois mal comment des discussions peuvent être possibles d'un pouvoir arriver à dire oui, vous allez discuter avec quelqu'un qui veut le changement de régime parce qu'il juge que les élections ne se sont pas bien passées. Et donc, comment voulez-vous discuter dans ce cas-là avec le régime qui est en place et qui a été proclamé vainqueur des élections? Et donc, les discussions me paraissent inconciliables. Par ailleurs aussi, les discussions vis-à-vis du Rwanda, ça aussi, ça me paraît inconciliable. Il ne faut pas oublier les propos qui ont été tenus par les uns et les autres au moment de la campagne électorale. Et il y a eu des propos assez durs qui ont été tenus. Et en relation internationale, ce genre de propos qui se sont tenus, généralement, amènent toujours à pouvoir avoir des réponses venant des différentes personnes, des différents régimes qui ont été incriminés dans le cadre donc de ces propos. Et donc là aussi, on va avoir aussi une autre dynamique qui ne plaît pas celle d'avant et qui va encore beaucoup plus compliquer les choses. Donc je n'attends rien de ce processus de Luanda, ne va rien apporter, aussi bien le processus de Nairobi qu'on peut dire qui est déjà mort puisque le contexte a complètement changé. On a les supplétifs. On a aussi le fait que plusieurs groupes maintenant ont bien compris que ce n'est pas la peine de pouvoir aller dans un processus de démobilisation, réinsertion, etc., tout ce que vous voulez, mais qu'il est beaucoup plus important de rester dans ce qu'on appelle la revendication de prédation plutôt que d'aller plus dans la prédation plutôt que de rester dans une espèce de mouvement qui va aller dans le désarmement, etc. Et donc pour ma part, en tout cas, les choses ne s'annoncent pas très, très, très bien par rapport à la suite des événements et on peut craindre dans ce contexte, comme toujours depuis quand même plusieurs années, la population civile qui continue toujours à être la première victime et on remarque tous les jours qu'il y a des victimes civiles que l'on dénombre par milliers dans le cadre de ce conflit.
Pacifique Bayala, Henri Pacifique Mayala, coordonnateur du baromètre sécuritaire du Kivu, qu'est-ce que vous pensez de la démarche du médiateur désigné Lorenzo João Lorenzo pour arriver à créer ce dialogue direct entre le président congolais Félix Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame concernant la situation dans l'est de la RDC?
Alors, merci beaucoup, Madame Kelly. Rapidement, je voudrais revenir sur le propos du professeur Maïla que je salue. En passant, la situation, comme le disait tantôt le prof Kabamba, a considérablement changé depuis l'initiation des processus Nairobi-Luanda jusqu'à ce que nous observons aujourd'hui sur terrain. Il y a eu beaucoup d'eau qui ont coulé sous les ponts et je m'inscris dans une posture plutôt très pessimiste dans le sens que les uns et les autres se radicalisent davantage et pendant ces temps-là, les populations qui ne méritent pas cette peine continuent à souffrir. Pour revenir sur le propos du prof Moïla, dire que ce chapitre sur les élections est clos, je crois que ça serait encore partir de mauvaises bases pour plus tard se retrouver que nous avons fait, nous nous sommes mis dans un cercle vicieux où à la limite nous avons fait que du surplace. Il faudrait signaler que ces élections, la qualité des élections passées, ont ajouté à la liste des opposants, en tout cas qui ne peuvent pas se réclamer être républicains, une sorte d'opposition armée qui aujourd'hui, comme aussi le disait le prof Kabamba, n'est pas facilement à distinguer de la lutte armée avec laquelle nous sommes entrés d'être préoccupés pour le moment. Et pendant ce temps-là, je voudrais aussi signaler que à l'échelle nationale, on ne devrait pas aussi perdre de vue que, oui, le M23 serait une priorité. Il y a les dynamiques dans la province de Tshopo avec les nomades Mbororo. Il y a les Codeco qui, d'une certaine manière, ont aussi repris l'activisme. Il y a les ADF. Il y a les dynamiques dans le haut plateau du Sud Kivu. Tout cela constitue des problématiques sécuritaires qui devraient être mises sur la table à un certain moment. Alors, pour moi, à Addis Abeba, il faudrait reconnaître que Tout en étant dans cette posture pessimiste, j'aimerais bien croire que c'est pas tout à fait une impasse, mais plutôt un appel au devoir de la part de des diplomates. Cette quête continuelle des alternatives envisageables dans la résolution de conflits, c'est le moment où maintenant les uns et les autres devraient activer les batteries pour essayer d'explorer les alternatives où tel compromis sur un dossier pourrait envisager une certaine solution pour un autre dossier. Comme le disait le prof Moïla, la posture aujourd'hui entre l'Afrique du Sud et le Rwanda pourrait déboucher sur un certain soutien dont bénéficierait le Congo dans le cadre du déploiement de la force des SADC, mais encore qu'il faudrait se poser la question jusqu'à quel niveau l'Afrique du Sud continuerait à s'engager dans le cadre d'un conflit qui ne lui appartient pas, en tout cas pas directement. Et donc là encore, c'est une question qui nous revient sur à quel niveau nous sommes prêts, nous en tant que Congolais, à quel niveau sont prêts nos FRDC à pouvoir nous défendre. Bien sûr que je comprendrai jusqu'à un certain niveau la posture du président Félix à refuser de discuter avec un acteur illégitime, ça pourrait se comprendre, mais il faut dire que nous avons aussi perdu beaucoup de temps à chercher des solutions qui n'étaient pas efficaces et dont on était sûr que ce n'était pas la bonne solution. Il faut se rendre compte que l'utilisation de la force ne peut être efficace que si et seulement si elle est intégrée ou incorporée dans une stratégie diplomatique ou politique beaucoup plus large, bien pensée, bien ficelée. Quelle est notre stratégie? C'est toutes ces questions-là.
Mais avec le renforcement militaire en RDC, est-ce que ça ne pourrait pas aider, par exemple, la RDC à vaincre, à neutraliser ces M23?
Je ne vous ai pas très bien suivi, madame.
Je dis avec tout ce renforcement, le renforcement militaire, hein, en RDC, on a la SADC qui est là, on a le Burundi, on a les Tanzaniens, on a la MONUSCO qui combat aux côtés des FRDC. Avec tout ce renfort-là, est-ce que ce n'est pas possible d'arriver à neutraliser cette rébellion?
Bien effectivement que c'est possible. C'est là que je voulais en venir, parce que les alternatives sont là. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas en train d'obtenir les résultats? Eh bien, essayons de décortiquer la question. Aujourd'hui, nous avons la SADC qui, vraisemblablement, est vraiment engagée, en tout cas comparativement à ce que nous avons connu ici avec les forces de l'Afrique de l'Est. La SADC, le même général qui a défait le M23 en 2012, est à la tête de la force attendue. Mais regardons un peu les contraintes à laquelle il fait face. Une force de 8000 troupes attendues, il n'y a que environ 800 qui sont déployées ici. Un financement estimé à plus de 500 millions de dollars, pour lequel ils ont à peine 30 millions. Tout ça, ce sont des questions à mettre sur la table. Quelles sont les alternatives face à nous? Au niveau du Conseil de sécurité, il y a eu plus ou moins ces avancées où les Nations Unies peuvent directement financer les missions qui sont mandatées par l'Union africaine. Comment est-ce que nous parvenons à obtenir ce mandat de l'Union africaine pour que la SADC puisse bénéficier, par exemple, de la logistique directe de la MONUSCO, comme ce fut le cas en 2012? Voilà la bonne question. Pourquoi chercher des midi à 14 heures? Les pistes de solutions sont là. Et je suis d'accord que en début de l'année, le président Félix a posé des préalables, mais il n'excluait pas totalement la voie du dialogue, ce qui est encourageant. Mais d'autre part, la force et la dimension de la force, nous avons toute cette panoplie d'alternatives. Comment en tirer profit, c'est là la grande question. Et je ne suis pas trop sûr que nous soyons en train de faire beaucoup dans ce sens-là. L'Afrique du Sud vient de perdre déjà deux de ces éléments. Je ne suis pas trop sûr que le Sud-Africain soit toujours là à intervenir pour le bien-être des Congolais, juste Merci. Parce qu'ils sont en foi avec le Rwanda. Et donc, pour nous, il faudrait vraiment nous questionner sur où réside notre devoir? Comment est-ce que nous devrions apporter une alternative à nos propres efforts d'essai pour qu'ils soient à mesure de combattre? Parce que là, la façon que cette situation est en train de se détériorer, c'est pénible pour les populations locales.
Et merci, si vous pouvez me permettre de revenir... Très, très rapidement, hein. Allez-y, on a une phrase. Hein.
En une phrase, si vous pouvez me permettre de revenir sur les chiffres récents, au 7 février déjà, la cité de Sakhe abritait quelques 100 000 déplacés, avec la pression qu'a subi Sakhe le week-end dernier. Goma, autour de laquelle il y avait près de 500 000, c'est-à-dire qu'il y a eu maintenant plus de 600 personnes qui vivent dans des conditions les plus précaires possibles. Et tout cela, c'est des situations qui, demain après-demain, risquent de se détourner dans une sorte d'opposition qui n'irait pas par la voie républicaine. Surtout que de plus en plus, nous sommes en train de voir avec le régime actuel, la tendance est de virer vers un certain arbitraire qui n'encourage pas cette participation à la réflexion nationale pour en venir à bout de ces conflits.
Merci Henri Pacifique Mayala. On va prendre quelques auditeurs qui sont en ligne, qui veulent aussi participer à cette émission. On va prendre François, qui nous appelle depuis Kinshasa. François Okunji, qui nous appelle depuis Kinshasa. On va l'écouter.
François Okunji Lang, depuis Kinshasa. Je salue la médiation entamée par le président angolais, Joao Lourenço, pour retrouver une paix durable. Mais je fustige le fait de les parler séparément. Ces mini-sommets devraient faire l'objet d'un dialogue franc, directement sous la médiation directe du président angolais, afin d'être fixés sur une issue. Les faire séparément, je mets des réserves, car en politique, tout est possible. Et surtout en diplomatie, chacun tire les draps à son côté, voire même les médiateurs. La vraie diplomatie pour la paix doit être transparente, aussi et au vu de tous. Le fait que le gouvernement congolais compte sur le langage américain, moi je doute de leur accompagnement, car ils en tirent profit. Qu'est-ce qui empêcherait de faire un dialogue tripartite sur la médiation de l'Angola, c'est-à-dire M23, Rwanda et RDC, pour se parler en face? Minimiser les M23 en priorisant les Rwanda comme leurs parrains, c'est faire du surplace.
Professeur Moïla Tchimbi.
Ben, je comprends bien le pessimisme des collègues distingués amis, mais il faut aussi voir la réalité. Quelle est la réalité aujourd'hui? L'Occident est en train de vivre un cauchemar. Non seulement la problématique depuis la guerre de l'Ukraine, aujourd'hui la guerre du Moyen-Orient entre le Hamas et Israël, le Sahel, où l'Occident est en situation de non seulement de perte d'influence, mais probablement plus que ça, avec les coups d'État et les militaires qui ont pris le pouvoir. Il est plausible qu'aujourd'hui, même si toutes choses étant égales par ailleurs, il y avait certaines réserves sur la République démocratique du Congo, on ne peut pas préjuger de l'avenir. Tout porte à penser que même ceux-là qui traînaient les pieds sont convaincus qu'une déflagration en République démocratique du Congo, on ne sait pas ce qui restera encore. Évidemment, l'Europe est encore là, l'Amérique latine est encore là. Qu'est-ce qui resterait encore comme bastion? Et pour éviter justement cette tragédie, je comprends bien qu'il y a une myriade des gens qui se battent, des collègues bien renseignés ont indiqué les communiqués, etc. Mais où est la réalité? À supposer, prenons une hypothèse, si le président Tshisekedi et le président Kagame prennent langue sur cette question et que le Rwanda signe éventuellement un accord avec la RDC, vous pensez que le M23 va mobiliser toute la myriade que les collègues viennent citer et ça pourrait renverser la situation? Je le doute. Sur l'hypothèse de, voilà, le président est élu, d'accord, mais il y a des oppositions. Mais ce pays n'a pas commencé aujourd'hui. Les opposants seront toujours là. Ils peuvent rameuter de groupes ou de groupuscules par-ci, par-là, Mais ça, ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est d'en finir d'abord avec le Nord Kivu. D'en finir avec le M23. Le reste des forces, vous savez bien tout ce qui a été entrepris avec l'Ouganda, quelle que soit l'opinion que l'on puisse en avoir, il est possible de voir d'autres forces après. La priorité des priorités, c'est d'en finir avec le M23. Soit par une victoire, comme il y a 10 ans, soit par la négociation. Mais la négociation, cette fois, dans l'hypothèse où il faut commencer par le président Kagame, je pense que la stratégie, c'est un art de contradiction. Même l'ennemi le plus juré, un jour, on peut prendre langue avec lui, diviser premier ligne. Si demain, la République démocratique du Congo et ses alliés obtenaient par pression sur le président Kagame à négocier directement avec la RDC, je ne vois pas personnellement où trouverait le M23 les forces nécessaires pour pouvoir mener à la fin son combat. Bon, les collègues disent oui, mais voilà, les élections ont eu lieu et il y a des mécontentements, mais c'est humain, les mécontentements, il y en a partout.
Vous encouragez donc ce dialogue direct, professeur, entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame?
C'est possible, madame, parce que tout à l'heure, mon collègue parlait de l'Afrique du Sud en s'interrogeant. Mais ce grand pays, le Congo, que tout le monde regarde ses ressources, etc. Mais les ressources, quand le président Kabila a décidé de prendre langue avec la Chine, en disant, on n'a pas de milliards dans les comptes, on peut hypothéquer les ressources. Cette alliance a eu lieu. Malheureusement, le côté congolais a failli. Les Chinois disent, mais on a donné ce qu'il fallait donner. Si ça n'a pas marché, c'est du côté congolais. Donc, la République démocratique du Congo a des capacités. S'il faut que l'Afrique du Sud joue un rôle déterminant, c'est du donnant-donnant. Qu'est-ce que l'Afrique demande, l'Afrique du Sud demande à la République démocratique du Congo? Mais la République démocratique du Congo peut donner dans ce marché réel qu'est-ce que l'Afrique du Sud veut, qu'est-ce que l'Angola veut. Mais écoutez, bon sang, on ne peut pas agir comme si c'était dans un rêve. La guerre est là, les collègues rappellent, c'est comme madame, vous connaissez les rapports de non seulement des ONG et votre radio qui donnent des situations au jour le jour. La mort est là.
Merci.
Donc, on ne peut pas spéculer. Il est, à mon avis, très urgent d'en finir avec ce conflit par la négociation d'abord avec le Rwanda. Puisque c'est l'option qui reste. On verra si avec le Rwanda, on ne peut pas aboutir. Je n'ai pas dit qu'on va exclure totalement le M23. Si on finit avec le Rwanda, on peut discuter avec le M23. Parce que c'est le Rwanda qui fait que le M23 tient jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, des collègues épilogue sur, oui, il y a une myriade de gens qui s'organisent.
Merci,
et probablement, ils vont acheter les armes. D'accord, ils peuvent acheter les armes. Mais un État démocratique peut se battre aussi avec les moyens qu'il a.
Merci, professeur Moïla. On va rester à Kinshasa pour prendre cet autre auditeur, Junior Mumpongo. Ça sera pour vous, professeur Bob Kabamba.
Junior Mumpongo, depuis la ville-province de Kinshasa. La proposition du médiateur Jean Lorenzo autour de la situation sécuritaire en RDC rentre dans la droite ligne de l'idée qu'il est toujours positif d'encourager les dialogues et la diplomatie pour résoudre les crises sécuritaires. La relance des pourparlers entre les présidents rwandais et congolais pourrait être un pas dans la bonne direction pour trouver des solutions pacifiques aux défis rencontrés dans la région de l'Est de la RDC. Mais à cela, il va falloir être plus prudent, car la diplomatie sans les armes, disons, ressemble à la musique sans instrument. Les vrais diplomates le savent, et en ce sens qu'ils veulent la paix prépare la guerre.
Professeur Bob Kabamba, brève réaction.
Merci beaucoup pour la question, effectivement, donc c'est analysé. C'est que je suis vraiment un peu étonné par rapport à l'analyse que vient de faire mon collègue Tshiembe. En stigmatisant uniquement le Rwanda, cela veut dire qu'on ne connaît pas rien vraiment la dynamique conflictuelle qu'il y a dans l'est de la RDC. Quand vous regardez la configuration, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas que le Rwanda qui est derrière le M23. Il y a aussi l'Ouganda qui est à l'M23, mais le Congo n'aime pas stigmatiser l'Ouganda pour toute une série de raisons. On n'a pas assez de temps pour pouvoir bien mettre en évidence tout ça. Et aussi, il y a le fait qu'on ne peut pas nier qu'il y a des dynamiques locales conflictuelles dans le Nord Kivu, pas qu'à dans le Nord Kivu, il y a un peu partout dans la RDC. Tout à l'heure, si mon collègue Fatih Pic a parlé d'une série d'endroits, il faut aussi ajouter les Teke et les Yaka, et qui sont aussi en termes de conflit. Et de commencer à dire qu'on va d'abord discuter avec le Rwanda et qu'on va solutionner le problème qu'on est en train de connaître au niveau sécuritaire dans l'Est, c'est se mettre le doigt dans l'œil. Ça ne va pas résoudre l'Ouganda qui est dans l'East African Community, qui était là, qui était aussi en bilatéral, le Burundi, qui est à East African Community, qui sont aussi en bilatéral, la Tanzanie, qui est en East African Community, qui est dans la MONUSCO, et qui est maintenant dans la SADC, et qui est ajouté à l'Afrique du Sud, et on oublie en plus que l'Afrique du Sud est dans une période électorale, et que la situation de la politique intérieure sud-africaine va influer de manière claire et sur le déploiement des troupes sud-africaines sur le terrain. Le déploiement des troupes africaines sur le terrain qui sont dans une phase offensive. Je rappelle simplement que la présidente de la Tanzanie a été claire sous le mandat des troupes de la SADC, c'est que les troupes de la SADC ne sont pas engagées dans une mission offensive. C'est la même mission que la MONUSCO, que l'East African Community. Ici, on parle de morts venant des troupes sud-africaines. Les troupes sud-africaines ont été tuées dans leur camp, pas sur le champ de bataille, parce qu'ils ont été victimes des mortiers qui ont été tirés par les troupes du M23 sur leur camp dans lequel ils étaient retranchés, et d'où qu'on a connu ces morts. Donc les troupes sud-africaines ne sont pas dans une phase d'offensive, plutôt dans une phase offensive. Et ça va impacter durablement la politique sud-africaine, qui va avoir aussi un impact sur le déploiement des restes des troupes. 2900 hommes à déployer à Goma, madame, comment les déployer? On ne pourra pas les déployer, puisqu'il n'y a pas la possibilité de pouvoir arriver par avion avec les difficultés que l'on connaît dans le cadre de transport. Par route, ce n'est pas possible, puisque la plupart des routes sont déjà occupées par le M23. Et donc, fatalement, on en arrive à la case départ où on va constater une espèce de non-avancée de la situation. Et cette non-avancée de la situation n'avantage pas Kinshasa. Malheureusement, il faut le dire, ça n'avantage pas Kinshasa, ça avantage les différents groupes rebelles. Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, que la plupart des groupes rebelles qui étaient déjà dans une phase de déstabilisation, de désengagement, se sont retrouvés dans une phase de réactivation, liée notamment à la question de supplétifs, ce qui est le plus important de pouvoir prendre les armes et de te dire que l'on est Wazalendo, on est tout ce que l'on veut pour pouvoir défendre le pays. Alors, pour revenir à la question de l'auditeur, assez simple, oui, il faut négocier, mais malheureusement, dans la situation actuelle, je répète encore une fois, la RDC n'a pas récupéré un seul centimètre qui est tenu par les rebelles, et c'est plutôt les rebelles qui continuent à augmenter, à contrôler encore des cités. Et d'ailleurs, je lisais tout à l'heure sur le site de Radio Okapi, où on fait mention effectivement que voyez, les rebelles continuent d'avancer, ils sont dans les collines autour de Sake, et ils ne sont pas très loin de Goma. Et donc, dans une situation de négociation, comme dit l'auditeur, oui, il faut négocier. Mais il faut négocier en position, à quelle position? Oui, il faut faire les armes. Mais si vous n'arrivez pas à avancer, c'est plutôt les autres qui avancent. Dans cette situation, c'est les autres qui vont avoir ce qu'on appelle la dynamique de pouvoir dicter le calendrier et dicter aussi les questions sur lesquelles qui seront sur la table.
Puisqu'il faut trouver une solution, professeur Bob Kabamba, qu'est-ce qu'il faut faire? Relancer le processus de Luanda et Nairobi, même si c'est presque déjà mort, on n'en parle même plus. Le médiateur doit poursuivre sa démarche de faire en sorte qu'il y ait ce dialogue entre le Rwanda et la RDC, mais est-ce que ça va résoudre le problème? Déjà, le président Tshisekedi, lui, il est d'accord de dialoguer avec le Rwanda, mais pas avec le M23, mais est-ce que ça sera la solution, ça va mettre fin à cette rébellion du M23?
Je le répète, tu le dis, ça ne sert à rien, parce que tout simplement, quand on dit Rwanda, Congo, on oublie les autres acteurs. Ce n'est pas possible, madame. On oublie les autres acteurs qui sont aussi actifs dans ce conflit. On oublie l'Ouganda qui est sur le terrain congolais. On oublie les terres de l'Ouganda qui a aussi des intérêts. On oublie le Kenya qui a aussi des intérêts pour lesquels on les a chassés du Congo. On oublie le Burundi. Ce n'est pas possible de pouvoir commencer à envisager une discussion entre le Rwanda et le Congo, sans tenir compte de tous ces autres acteurs qui sont sur le terrain. Le processus de Rwanda, pour moi, c'est voué à l'échec, parce que tout simplement, il y a des dimensions sur lesquelles on ne veut pas pouvoir mettre la main dessus, mettre le doigt sur ces différentes questions. On n'a pas suffisamment de temps pour que je puisse argumenter et vous donner tous les enjeux qu'il y a par rapport à chaque pays dans son implication par rapport à ce conflit. Ce n'est pas uniquement les pays de la région. On a aussi le côté américain, on a aussi le côté chinois, dans le cadre, etc., de toute une série de dynamiques qui sont en train de se dessiner au niveau international. Et tout ceci, madame, c'est qu'en limitant uniquement entre ces deux acteurs, on ne résout pas ce problème, et plutôt on l'enlise en l'enlisant, qu'on l'enlise et on oublie aussi la dynamique congolaise, que l'on le veuille ou pas. Nanga est congolais. Nanga a créé l'alliance fleuve Congo. Il est congolais de père et de mère, comme on a l'habitude de le dire. Et donc, il fait partie aussi de la dynamique, puisqu'il met sur la table toute une série d'enjeux, toute une série de questions, et qui méritent d'être débattues. Donc, merci, on a professeur. Plusieurs niveaux sur lesquels il faut discuter.
Henri Pacifique, on va prendre aussi pour vous cette dernière réaction qui nous vient de Bukavu, au sud Kivu.
Je réponds par le nom de Magene Kakumbu Jules, activiste du Forum des nationalistes depuis la ville de Bukavu dans la province du Sud Kivu. Je pense que le président João Lourenço joue son rôle de médiateur, mais il va échouer dans sa démarche du fait que tous les deux protagonistes restent chacun fermé dans ses décisions. D'un côté, le président rwandais Paul Kagame restait déterminé à soutenir le M23 avec l'idée de décrocher un dialogue avec le gouvernement congolais. De l'autre côté, le président congolais Félix Tshisekedi, qui reste catégorique à ne pas dialoguer avec les groupes terroristes. Je pense que la solution sera possible lorsque l'un des protagonistes mettra, bien entendu, de côté ses estimes pour trouver une solution durable à cette situation. Dans le cas contraire, le président angolais fera des rencontres en rencontre entre les deux protagonistes sans trouver une issue favorable à ces conflits.
Alors, Henri Pacifique Mayala, vous allez réagir au propos de Jules Magene. C'est vrai que les gens, la plupart des auditeurs qui nous écrivent, qui nous envoient des messages, ne sont pas très favorables à ce dialogue. Certains estiment que la RDC devra renforcer son armée et neutraliser ces M23, des dialogues en dialogue. Il n'y a rien qui est sorti de tout cela. Qu'est-ce que vous pensez de sa réaction? Très brièvement, s'il vous plaît.
Oui, comme je le disais encore la dernière fois, comme en 2012, il nous faudra en tout cas une victoire significative sur le terrain pour les FARDC. Serait déjà un très bon point de départ pour entamer, si jamais il devrait y avoir, des discussions avec quelques acteurs que ce soit ou interlocuteurs. C'est vrai que, comme je le disais même aussi en début de cette émission, mon ressenti, c'est du pessimisme, parce qu'aujourd'hui, je crois que le moment où il fallait peut-être être assez flexible est passé il y a longtemps, parce qu'on était trop occupé avec des discours extrémistes et peu réfléchis durant les campagnes électorales pour se réveiller et envisager des voies diplomatiques auxquelles on n'a pas assez de moyens matériels pour pouvoir les activer en soi. Donc la possibilité ou l'alternative d'avoir nos FARDC mis en bonne condition sociale ou tout ce qui va avec pour assurer l'optimisation de leur technicité sur les terrains, reste la solution la plus convaincante pour laquelle on puisse opter, mais malheureusement, cela aussi, ça ne sera pas une possibilité du jour au lendemain. Je suis d'accord que peu importe sa bonne foi, qui n'est pas que de la bonne foi, le président Lorenzo, il pourra toujours essayer, mais je reste pessimiste que les travaux qui s'annoncent pour la fin de ce mois à Luanda puissent aboutir à des résultats qui nous ramènent une paix durable dans l'est du pays. C'est pénible pour moi de le dire ainsi parce que je ne sais pas donner une réponse assez tranchée ou assez orientée pour notre compatriote Jules. Et surtout, les affres que souffrent auxquelles font face les populations ici autour de Goma, une occasion pour moi aussi de saluer la solidarité du peuple congolais qui s'organise autour de ces déplacés des guerres, des jeunes qui se réunissent sur des plateformes comme Goma Actif pour aller soutenir ces éléments. C'est une interpellation pour notre gouvernement de faire de son mieux. Aujourd'hui encore à Sake, une personne est morte d'une bombe tombée en plein quartier résidentiel. Cette personne ne méritait pas la mort quand nous avons quelqu'un qui est supposé prendre ses responsabilités, quelqu'un qui porte le titre de garant de la nation pour défendre notre pays.
Merci.
Nous devons remettre en force nos FRDC, nous devons avoir une armée dissuasive et là alors, on pourrait reprendre le chemin de la diplomatie.
Merci Henri Pacifique Mayala. Professeur Mayala, votre conclusion en 30 secondes.
Oui madame, je pense que les temps sont difficiles, mais le début de commencement est dans l'esprit des hommes et leur détermination. Si le chef de l'État démocratiquement est réélu, prend les choses en main comme il l'a promis pendant la campagne et avant, le choix de partenaires. Mais les partenaires, madame, on les choisit. Si demain, le président de la République se rend compte que l'Afrique du Sud ne peut servir à rien, que l'Angola ne peut servir à rien, il n'y a pas que ce partenaire-là. Il y a d'autres partenaires dans le monde. Vous avez vu, par exemple, dans les pays du Sahel, la France est partie, la Russie a pris la main. C'est pas un jeu d'enfant, c'est une question de survie. Si le chef de l'État, demain, s'aperçoit que les partenaires actuels ne lui permettent pas de mettre fin à cette guerre, il peut choisir d'autres partenaires.
Merci, professeur Moïna.
Rien n'est encore perdu. L'armée nationale est là, il faut la renforcer. Les Congolais qui veulent se battre, les Vazelendo et au-delà sont là. Il faut mobiliser toutes ces forces. Je comprends bien que les choses sont difficiles, mais on ne peut pas se dire, ben voilà, parce que il y a des rebelles, oui, il y en a d'autres qui viennent de commencer, donc il faut croiser les bras.
Merci, professeur. Ouais. Merci, professeur. Professeur Bob Kabamba, vous avez 30 secondes plutôt pour conclure.
La conclusion, c'est qu'il faut véritablement qu'il y ait une dynamique d'abord nationale au niveau du Congo, entre Congolais, ensuite une dynamique régionale avec tous les pays qui sont impliqués dans ce conflit, et aussi une dynamique au niveau international, parce que tout simplement, il y a des enjeux liés au contexte international. Tant qu'il n'y en aura pas arrivé à avoir cette trilogie, arrivé à parler d'une seule voix, nous allons malheureusement, de semaine en semaine, de jour en jour, à la désolation au niveau des populations civiles pour lesquelles nous compatissons et que chacun à son niveau essaye d'apporter dans la mesure du possible un soulagement en essayant d'envoyer tant que peu un peu de matériel, un peu d'aide pour les populations civiles qui souffrent en l'est de la RDC. Merci.
Merci professeur. Dialogue en congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté qui l'a réalisé. Alain Goy était à la mise en onde derrière la caméra. Clément Chimanga, présentation et coordination. Kenin Kouté, bon site de programme sur la fréquence de la paix.